c'est un sujet qui suscite de nombreux débats. De quoi parlons-nous quand nous évoquons ce secret de la confession? Peut-on le lever lorsqu'il s'agit d'abus sexuels sur des mineurs ou des personnes faibles? Nous en parlons aujourd'hui avec le frère Joseph Thomas Pigny, dominicain et professeur de droit à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour frère Joseph Thomas.
Bonjour Isabelle.
L'entrevue le 12 octobre dernier entre Gérald Darmanin et Monseigneur de Moulin-Beaufort a révélé deux conceptions différentes du secret de la confession. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a aucune loi au-dessus de celle de la République, alors que le président de la Conférence des évêques de France répond que le secret de la confession s'impose à nous et est au-dessus des lois de la République. Alors, qui croire? Frère Joseph Thomas Pigny, peut-être qu'on se cristallise sur une question comme d'un arbre qui cacherait la forêt. Est-ce que finalement on ferait du secret de la confession un mythe et du prêtre un homme au super pouvoir?
Je crois qu'en fait c'est exactement ça. Il y a deux aspects dans ce que vous soulignez qui est très juste. Le premier, c'est que effectivement l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est une question à l'évidence mal comprise, et c'est vrai qu'elle conservera toujours sa part de mystère. Son degré d'acceptabilité sociale est sans doute devenu difficile.
Oui.
Dans le même temps, le fond du problème des abus, ça n'est pas le secret de la confession lui-même. Donc ça, c'est l'arbre qui cache la forêt.
D'accord.
Et par ailleurs, il y a évidemment, et c'est lié à un aspect de... on pourrait dire, pardon, de fantasme, hein, sur d'abord le nombre de pénitents et aussi le nombre de pénitents avouant des abus. Je n'ose faire cette provocation, je dirais qu'on aimerait presque en tant que prêtre qu'il y en ait plus. Parce que très concrètement, les auteurs d'abus ne sont pas en majorité portés vers le sacrement de pénitence, mais ça peut évidemment arriver. Ça peut être plutôt la question des victimes,
oui,
en réalité,
exactement,
qui peut se poser. Et par ailleurs, le prêtre, dans la célébration du sacrement de pénitence et réconciliation, n'est vraiment là qu'en place du Christ. Hein. Lui est un témoin et un assistant. Il n'est pas l'homme qui provoque et qui garde des secrets dans un coffre-fort. Il est le témoin du dialogue intime de la conscience du pénitent avec Dieu. Il en est l'assistant pour aider le chemin de conversion. Il est celui qui, au nom de l'Église, va absoudre. Ça, c'est ce qu'il a à faire en propre, dans ce pouvoir que l'Église a confié, que le Seigneur a confié à l'Église, pardon. Et je dirais qu'il n'en fait pas plus. Il est là surtout en grande humilité, lui-même, il le faut d'ailleurs pour cette célébration, en grande pénitence, témoin d'une souffrance et d'une merveille également.
Oui, alors voilà, foin du prêtre au super pouvoir. Est-ce que, pour bien comprendre ce qui est en jeu, vous pourriez un petit peu nous faire quelques rappels pour nous dire ce que le droit canon, ce que l'Église a prévu à propos de la levée du secret de la confession? Qu'est-ce qu'on risque? Pourquoi c'est si important de ne pas le lever, justement, ce secret?
Alors, le principe, c'est qu'il ne se lève jamais.
Oui.
Et qu'il n'y a aucune puissance humaine, ni le pape, ni personne, ni, je dirais, a fortiori, une puissance laïque, qui puisse le lever. En tant que secret de la confession, il est, comme disaient les théologiens classiques et plus anciens, il est le sceau sacramentel en réalité.
Et alors pourquoi il est aussi justement préservé ce secret?
Alors pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que parce qu'il est l'espace en quelque sorte, ou le sceau de l'espace où a eu lieu ce dialogue entre l'intime de l'âme et Dieu, il n'y a rien, aucune puissance humaine qui puisse franchir le seuil de ce sanctuaire-là. Et puis il y a une autre raison, qui est celle de la puissance et de la grandeur de l'amour de Dieu, hein, qui met nos péchés aussi loin que l'Orient et de l'Occident, dit le psaume 102, qui met nos péchés au fond de la mer, dit le prophète Isaïe. Donc ces péchés, ils sont pris par le Seigneur, et s'il faut effectivement tenir compte des conséquences du péché, alors c'est là que va intervenir spirituellement l'absolution, et c'est là qu'il peut y avoir aussi des éléments matériels, par exemple dans la satisfaction, dans la fameuse pénitence qu'on peut donner. On ne peut pas franchir ce sanctuaire. Il est infranchissable. Alors pour le droit canonique, c'est assez cohérent. celui qui enfreindrait directement le secret de la confession est frappé d'une excommunication qu'on appelle la te sententiae, c'est-à-dire qu'elle est automatique, et ça n'est que le pape qui peut la lever par le tribunal de la pénitencerie apostolique. Tous ceux qui ont eu connaissance de quelque chose dit en confession, que ce soit l'interprète, que ce soit un tiers, sont tenus par le même secret. On ne peut faire mention ou usage de quoi que ce soit qu'on ait reçu, et c'est là que se situe le problème, et précisément. Oui. Dans le cadre de la confession, on ne peut pas être contraint à témoigner devant un tribunal ecclésiastique pour ce qu'on a reçu dans le cadre de son ministère, mais pour le secret de la confession plus spécifiquement, puisque ça n'est qu'une partie du ministère. Là, on est inapte à témoigner, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas avoir la capacité d'être appelé comme témoin. Il est très très protégé.
Oui. Oui, c'est ça. Mais alors justement, frère Joseph Tomapini, comment l'Église peut-elle se faire écoute et se faire compatissante avec la souffrance des enfants, puisque quand parfois un enfant va parler de ses abus en confession, comment l'Église va pouvoir répondre en fait à ce cri?
Alors, il y a ce qui se passe dans le cadre du sacrement. C'est-à-dire que cet espace de confiance, d'intimité aussi pour crier sa misère au Seigneur, la déposer devant lui, la misère de ce qu'on a commis ou la misère de ce qu'on a subi, l'horreur de ce qu'on a subi. Là, le prêtre dont la discipline nous dit qu'il est à la fois juge et médecin, et là, est déjà pour aider à avancer. Il est là aussi pour avancer sur le chemin de la conversion, il est là pour aider à avancer sur le chemin du pardon, qui sont deux chemins très difficiles, mais sans lesquels il n'y a pas de retour à la vie, en quelque sorte, hein, à la vie plénière. Et puis, il faut quand même bien le rappeler aussi, tout ce qui est en dehors de la confession.
Parce que et c'est justement là, dans ce cadre-là.
Ben oui, c'est le secret dont nous avons parlé, c'est le secret de la confession.
C'est-à-dire l'aveu des péchés et le pardon de ces péchés.
Voilà, alors ce qui est déposé, ce qui est fait au moment de l'aveu, mais à côté de ça, on a les entretiens spirituels, on a les confidences qu'on a pu recevoir, et parfois, dans le cadre du sacrement de confession, d'abord, qui n'est pas toujours centré sur l'aveu des péchés, mais qui est quand même couvert par le secret dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est proposer, et c'est ce qui est recommandé maintenant par les textes tant de la conférence des évêques que du Saint-Siège, c'est proposer aux pénitents de sortir en quelque sorte de la confession, de continuer l'aveu des péchés, mais de parler de ça dans un autre cadre. Cadre-là, lui, à la fois le droit canonique récemment, a fait évoluer sa discipline et il l'a fait évoluer d'une manière qui permet en quelque sorte de raccrocher les wagons avec le droit civil.
Donc vous voulez dire que une fois que le sacrement de la réconciliation et que le pardon a été donné, le prêtre peut inviter la personne, donc là en l'occurrence on parlait de l'enfant mineur, à poursuivre l'entretien et à avoir justement ce dialogue pour aider l'enfant à peut-être se confier à une autre personne et dans ce cas le prêtre n'est pas tenu par le secret de la confession.
Alors on peut le faire dans le cadre de la confession. Et il y a quand même ce qu'il aura entendu en confession, là il est tenu par le secret.
Et oui.
Mais on peut dire pendant la confession, ce point-là, tu vois ou vous voyez, c'est très très important, il faut qu'on en parle, pas dans le cadre de la confession, mais il faut qu'on en parle dans un autre cadre.
D'accord. Voilà.
Et alors, dans le cadre de la confession, il faut encourager à dénoncer. Il faut encourager à se dénoncer également, en expliquant les enjeux, en donnant aussi un peu en accompagnant d'une certaine manière, je dirais fraternellement, hein, quel que soit le pénitent, pour lui donner cette confiance.
Oui, parce que ça peut faire peur de se dire.
Ben oui, que l'amour et la justice du Seigneur primeront. Hein, et que donc aller se dénoncer devant les hommes ou aller dénoncer devant les hommes, c'est quelque chose qui va faire avancer.
Oui, et qui libère.
Voilà, et qui libère aussi, qui en protégera d'autres également. Donc c'est quelque chose qui fait intervenir la charité, la liberté, la vérité, et c'est très important. Mais ce qui sera dit, je le répète, hein, dans le cadre de la confession ne pourra jamais être répété.
Être réutilisé après.
Mais c'est un périmètre, le secret de la confession, il a un périmètre bien circonscrit, c'est ça que je voulais dire.
D'accord. Et alors, justement, quel risque, frère Joseph Thomas Pigny, pourrait survenir si l'Église levait le secret de la confession? Est-ce qu'il y aurait finalement moins de gens qui iraient se confesser? Est-ce qu'il y aurait une perte de confiance? En fait, quels sont les enjeux?
Je situerai la question d'abord sur un terrain spirituel.
Oui.
C'est-à-dire que, ce faisant, je crois, sans être trop grandiloquent, que l'Église ne serait plus l'Église. C'est ça qui est vraiment... C'est-à-dire que le ministère de la réconciliation ne serait plus le ministère, mais l'Église qui a été faite pour les pécheurs, elle a été faite au secours des petits, elle a été faite pour être le signe agissant de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu, mais je dirais avant tout de sa miséricorde.
Oui.
L'Église ne serait plus l'Église. Et alors après, si les déterminations d'éventuelles exceptions au secret de la confession étaient en quelque sorte appuyées sur la loi civile,
oui.
Là, on commence par les abus sur mineurs, mais quel autre secret enlèvera après?
Ah oui, c'est une boîte de Pandore
aussi,
qui est ouverte.
C'est la boîte de Pandore. Par ailleurs, on rompt en quelque sorte le seul petit espace qui peut-être aidera à faire les premiers aveux.
Parce que cette confidentialité, justement, elle inspire confiance. Oui, c'est ça.
Exactement. Ouais. Ce qu'on a constaté dans d'autres solutions, alors notamment aux États-Unis, qui avaient été un peu pionniers dans la question de la dénonciation par les évêques, hein, texte qui avait été adopté par la Conférence des évêques des États-Unis, c'est qu'un mécanisme de dénonciation systématique a abouti non pas à faire croître les affaires, mais à diminuer les aveux.
Ah oui, c'est ça.
C'est-à-dire que beaucoup moins de prêtres, notamment, ont fini par aller parler à leur évêque, sachant que leur évêque allait tout de suite dénoncer ça à l'autorité civile.
Oui.
C'est extrêmement progressif, les aveux, hein, et
d'accord.
C'est extrêmement douloureux, que ce soit ceux de la victime ou que ce soit ceux de l'auteur. C'est un processus libérateur, mais terrible. C'est une espèce de gigantesque accouchement, mais c'est quelque chose de pire qu'un accouchement, parce qu'on ne libère pas la vie, là. Il y a quelque chose qui fait sortir la mort, finalement. Parce que toute la vie de la victime est marquée, liée par ça, c'est très, très, très difficile et très long, les aveux.
D'accord. Merci beaucoup, frère Joseph Thomas Pigny, pour ces éclaircissements. Vous avez accepté cet entretien pour nous aider à y voir plus clair sur ces questions liées au secret de la confession. Et merci infiniment.
Merci à vous, Isabelle, et bonne journée à tous.